Et lorsque Judas dit à Joseph, et dit de Joseph, Kamocha, Képharo, comme toi, comme le pharaon, il y avait quelque chose de vrai. Jusqu'au bout, Joseph peut jouer soit le rôle de Joseph, fils de Jacob, l'hébreu, en camouflage de clandestinité chez l'Égypte, soit le rôle du juif qui s'est assimilé à l'Égypte, qui a pris le parti du pharaon. Et c'est Judas qui va l'obliger à se dévoiler. Je crois que nous avons vécu cela dans la naissance du sionisme, précisément dans les milieux juifs les plus assimilés, ce qu'on appelle la Haskalah. Et c'est un énorme paradoxe que de la Haskalah est sorti le mouvement national juif, alors que les milieux de la Haskalah, c'était les milieux de Joseph, première manière, qui se déjudaïsaient littéralement pour se mettre au service de la civilisation extérieure. C'est cette histoire qui arrive à ce moment précis, et que, j'ajoute ceci grâce à ta question, tous les mouvements sionistes à leur origine ont été des mouvements utopistes socialistes. C'est-à-dire, c'est très frappant, c'est Joseph parlant de paix à ce niveau-là. Il y a dans le folklore de la gente juive, si vous voulez, cette première période de l'idéologie sioniste de la plus grande utopie socialisante. C'est sorti de ces milieux d'Ascala les plus assimilés. Alors imaginez ce dialogue entre Joseph et Judas. On pourrait, si vous voulez, le caractériser par une image. Herzl arrivant à la rue Pavée. Voilà, Herzl, Joseph, et le rabbin de la rue Pavée, Judas. Qu'est-ce que le rabbin de la rue Pavée aurait répondu à Herzl? Il lui aurait dit « Goy ». Oui, mais il lui aurait dit en yiddish. Alors que Herzl ne parlait pas l'hébreu, mais c'est l'hébreu qui ne parlait pas. Vous avez compris la différence. Voilà, grosso modo. Alors. On arrive, c'est le moment précis de l'analyse dans le texte. Il y a une problématique. Si l'identité d'Israël, dès l'origine, est absolument authentique, il n'y a pas d'éventualité exil dans le sens de l'oppression, comme ça aura lieu a posteriori. Il y a éventualité relation d'Israël comme peuple de prêtres avec l'humanité extérieure, relation qui peut se faire dans la gloire. Ce n'est que si l'identité d'Israël est atteinte à sa racine, par une inauthenticité qui va être expliquée par le Maharal, que cette relation à l'humanité extérieure se fera dans l'exil, persécution et oppression, parce qu'elle se fera quand même. Et il n'y a pas fatalité a priori. Ta question porte sur tout le récit de la Bible. Nous sommes tellement familiers avec le récit déjà advenu que nous croyons à chaque étape que c'est comme ça que fatalement ça doit arriver. Mais à chaque étape, il y avait marge de liberté. Seulement c'est arrivé comme ça, et comme c'est arrivé comme ça, et que la cohérence du récit est totale, on croit qu'il y a fatalité mathématique a priori. Vous comprenez? Et je ne sais pas si tu étais là hier soir. Non, alors je reprends un petit moment de l'analyse d'hier soir. Michel Prince d'ailleurs avait posé la question. Comment cette analyse du Maharal, selon laquelle l'exil s'explique par l'usurpation de souveraineté d'Israël par les empires, rappelle cela, s'accorde avec le terme traditionnel, d'autre part, que le Maharal connaît aussi, qu'il faut la présence physique des descendants d'Israël là où les valeurs s'élaborent pour les sanctifier. C'est pas nécessaire que ça se fasse dans la situation d'exil, comprenez? C'est pas nécessaire que ça se fasse dans des ghettos. Même des ghettos ouverts, comme la communauté de Paris. C'est parce que, imaginez, l'impression qu'on peut avoir arrivant d'Israël, lorsque on arrive dans une ville, où devant tous les bâtiments juifs, il y a des barrières et des chicanes. C'est de la chicanerie. c'est bizarre, pour ne dire que ça. Et une situation ambiguë. Ça veut dire que le ghetto, c'est quand même le ghetto. Et ça peut être dans la gloire. Lorsque je rencontre la France des Français en tant qu'Israélien, la relation est de visage, à visage découvert, de langue à langue, d'identité à identité, et je peux, sans tricher, dire que j'aime la culture française. Mais si je rencontrais la France en tant que juif français, ce serait Joseph déguisé en égyptien, et qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que j'aime la France alors que je suis juif français et pas hébreu parlant de la France? Il y a là, derrière, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas vous choquer, parce que j'ai vécu cette vie-là, alors je la connais par expérience. Il y a des parasitismes bienfaisants. Okay? Alors les parasites aiment les organismes qu'ils parasitent. Ça y est, c'est clair ce que j'ai dit là. Okay? Bon. Mais... Non, justement, ce n'est pas un exil. C'est-à-dire que cette relation peut se faire dans la gloire, et ce n'est pas l'exil. C'est la diaspora dans le sens noble. On peut être israélien en voyage. Et au temps où nous parlons, où nous vivons, le temps des masses médias, comme on dit, l'échange entre l'identité hébraïque et l'identité des nations peut être dans de tout autre média que le média de l'exil. C'est ça que j'explique. Seulement, nous avons tellement été habitués à ce que notre relation à l'humanité se fasse comme ça, que nous croyons que c'est comme ça que c'est sacré. C'est ça le drame profond. Je veux simplement dire cela. Il y a déjà une relation de l'identité israélienne, et ça va très vite, et l'identité des nations qui court-circuite et les communautés juives, et l'église chrétienne et la mosquée musulmane. Il y a déjà une relation entre les Hébreux et les nations du monde qui ne passe plus par ces chemins habituels. C'est-à-dire d'Hébreux à Goy, le mot de Goy ayant son sens étymologique de les nations. Quand, par exemple, une mission d'Israéliens va à Madagascar, eh bien, on rencontre les Malgaches, d'Hébreux à Malgaches, sans passer par la médiation ni de la synagogue, ni de l'église, ni de la mosquée. De Jérusalem à Madagascar. Et c'est une expérience que je ne peux pas décrire avec les mots, il faut la vivre. J'ai une de mes élèves qui est la directrice de l'Institut de Tel Aviv de la formation des cadres afro-asiatiques. Et là, il y a une école du gouvernement israélien qui forme des cadres économiques, mouvements de jeunesse, enfin tout ce que vous voudrez, pour les pays d'Afrique et d'Asie. Cette relation-là n'a plus rien à voir avec ces relations habituelles pendant 2000 ans où les Israël étaient reliés aux nations à travers ces espèces de visages exiliques qui est le juif selon la mosquée, le juif selon l'église ou le juif selon la synagogue. Voilà la mutation qui s'est produite. Ça me rappelle une petite anecdote que je vais vous raconter. Vous vous rappelez au moment où les services secrets israéliens ont capturé Eichmann en Argentine. L'Argentine avait menacé de traîner Israël à la Cour internationale de la Haye. Vous vous rappelez de cela? Bon, parce que les pays du droit, c'est l'Argentine. Donc, et alors... oui. Et alors, Ben-Gurion était allé discuter avec les Argentins en Hollande. Et il en avait profité pour rassembler les responsables des mouvements de jeunesse d'Europe. C'était en principe une réunion secrète. Nous étions 200. Et le secret juif, vous savez ce que c'est. Bon. Et alors, quand mon tour de parole était arrivé, on se parlait en hébreu, bien sûr, dans cette réunion, et j'ai parlé au nom des mouvements de jeunesse francophones, je disais à Ben-Gurion, et il nous demandait quel est l'état de la relation entre la communauté juive et Israël. J'ai dit, nous avons un problème en France qui est particulier. C'est l'indice de valeur de la culture française. Et si vous voulez que les Juifs de France, c'était il y a longtemps, aient une relation plus aisée avec Israël, envoyez-nous des shlichim, des représentants d'Israël, de haute qualité culturelle, parce que la qualité de la culture française est très haute. Il a tout de suite compris ce que je lui demandais. J'espère qu'il n'y a aucun représentant de l'agent juif ici. Il a tout de suite compris ce que je lui demandais, et il m'a répondu, une minute. Il m'a répondu, vous les Juifs, débrouillez-vous. Les shlichim de qualité, on en a besoin pour les afro-asiatiques. Vous, les juifs, voilà sa réponse. Vous avez compris le problème. Vous savez que Ben Gurion avait ce rêve messianique de la rédemption des pays du tiers-monde. Vous vous rappelez de cela, okay? Avec des méthodes qui n'ont rien à voir avec celles de l'Occident, ni de la Russie, avec les méthodes de la société israélienne. Et même quand les pays afro-asiatiques avaient rompu les relations diplomatiques avec Israël sur la pression des Arabes après la guerre de Kippour, les relations économiques et les autres ont continué quand même. Je ne sais plus pourquoi je vous ai raconté tout cela, mais d'après la question précédente, ce n'est pas nécessaire, oui, que les communautés juives soient en situation d'otage dans l'exil, avec risque d'antisémitisme permanent, pour qu'Israël joue son rôle de relation à la culture universelle. Ça peut se faire dans une toute autre médiation. C'est tout ce que je voulais ajouter. Oui, absolument. Seulement, il faut dire, pour être un peu plus complet, que toutes les communautés d'Israël qui ont vécu chez les nations en dehors de l'islam et de la chrétienté se sont perdues. Elles ont été absorbées, elles ont été, c'est Joseph perdu, les 10 tribus perdues, c'est la maison de Joseph d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elles se redévoilent. Comme s'il était nécessaire qu'il y ait cette espèce de dialectique, de rivalité d'Ésaü et d'Ishmaël pour qu'Israël se préserve dans l'exil. Il n'y a eu de communauté juive, finalement, qui ne sont restées qu'à l'ombre de la mosquée ou de la croix, ou de l'église. Okay? C'est un peu paradoxal, mais l'histoire le montre. Bien. Oui.
Si vous estimez que la question ne mérite pas de réponse ici, n'y répondez pas. Mais quand l'extrême droite dit aux juifs de se mettre à visage découvert et de rentrer chez lui, est-ce que je dois l'approuver?
Je ne crois pas, parce que ça dépend dans quelle intention il le fait. Évidemment, son intention n'est pas forcément le sionisme, vous comprenez. Et objectivement, c'est une situation très très difficile. Lorsque j'étais juif de diaspora, ma réaction à une question de ce genre était absolument 100% massive. Hein? J'aurais dit d'un droitier, je ne sais pas. Enfin, d'un extrême droitier de ce genre, d'un anti-juif. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre. Peut-être je dirais, tu es français chauviniste. Mais anti-juif, pourquoi? Pas forcément. Parce qu'il dit objectivement une vérité objective, que les juifs sont chez eux, en Israël. Et ça, je ne peux pas dire qu'il a tort. S'il dit que les juifs ne peuvent pas être chez eux en France, d'après les lois françaises, ça, je peux dire qu'il est raciste. Et qu'il adore. Mais vous voyez à quel point c'est compliqué, votre question. Je crois que tout le monde a le droit d'être chez soi, les juifs aussi. Et voilà ce que je veux dire. Il est possible qu'il arrivera un temps où la relation entre l'identité Israël et les nations n'aura plus besoin de passer par cette médiation de l'exil. Ne bougez pas, ne bougez pas.
Je vous remercie.
Je les ai. Alors, je voudrais quand même vous prendre quelques minutes pour lire les trois enseignements du Talmud que je vous ai déjà annoncés. Et ceux qui ont le temps, avancez un peu dans le texte pour demain. 10 minutes. Ve'ata ashuv el dibri hachamim ane havim ve'ane imim abururim ameusadim aladne horma. Après avoir critiqué les deux thèses précédentes, le Maharal va nous dire, et maintenant revenons aux paroles de nos sages. Et regardez les adjectifs qu'il emploie, je vais traduire. Et maintenant je reviens aux paroles de nos sages, ces paroles que nous devons aimer parce qu'elles sont douces, elles sont claires, elles sont basées sur les piliers de la sagesse. C'est-à-dire, c'est très gentiment dit que les thèses qu'il avait citées précédemment étaient absurdes. Alors il dit maintenant, revenons au véritable enseignement des sages. Amar Rabbi Abahu, Beperek Arba Nedarim, dans le chapitre qui s'appelle Arba Nedarim, le traité des vœux dans le Talmud, Rabbi Abahu enseigne, Mipenema Ne'enash Abraham Avinu, pour quelle raison a été puni Abraham notre père? Venishtar Bedu Banav, Mataim Ve'eser Shanim, et sa descendance a été asservie pendant 210 ans. Réponse, Mipene she'asa angaria betalmidei chachamim, parce qu'il a mobilisé des étudiants de la Torah, des élèves de sages littéralement, il a fait faire la guerre à des sages. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vayerek Hanicha, Yelidevetu. Je vais vous donner le verset. C'est lorsque Abraham est allé au secours de Lot dans la guerre des quatre saints rois où étaient impliqués Sodome et Gomorre. Le verset nous dit que lorsqu'Abraham a appris que Lot avait été fait prisonnier, il va intervenir dans cette guerre. Et le verset dit, Vayarek et Hanicha, il arma ses disciples. Yéli de Beto, les enfants de sa maison. Alors ici, le Talmud va mettre en évidence quelque chose d'important, mais apparemment bizarre pour notre mentalité culturelle. Si on est en danger, il faut mobiliser même les élèves. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Abbaou? J'explique un peu, mais nous aurons le détail de l'explication plus en détail demain. Il dit ceci. Ça veut dire que Abraham a manqué de foi. Et c'est très paradoxal comment Abraham, le premier homme de la foi, qui a eu le courage de la foi, a manqué de foi. Il dit oui. Il a cru qu'il n'avait pas assez de mérite pour se protéger dans cette guerre qu'il allait commencer pour sauver Lot, son neveu. Et pourquoi sauver Lot, qui avait choisi d'habiter Sodome et Gomorre? Il y a des choses très profondes, parce que Lot, c'est cette sainteté cachée, vous vous rappelez d'hier, qui garde Ruth en réserve jusqu'à la fin des temps. Il faut donc préserver Lot, parce qu'il porte en lui Ruth, donc David. Et Abraham s'est dit, peut-être je n'ai pas assez de mérite. Et donc, si je prenais des simples soldats, comme on dit, des simples fidèles, je perdrais cette guerre. Je vais prendre des hommes de mérite, les justes qui étudient la Torah pour leur faire faire la guerre. Alors Rabbi Abbaou dit, ah, tu manques de foi. Tu crois que tu n'as pas assez de mérite, tu manques de foi. Et l'expression que nous avons étudiée pendant plusieurs jours, c'est Mida ou Frézette. Qu'est-ce que c'est que cette manque de foi? Très paradoxalement, nous dit le Maharal, c'est une vertu exagérée. Chaque fois qu'une vertu est exagérée, elle signale un manque de foi. Parce que Dieu n'est pas si exigeant que ça. Ça veut dire que tu exagères l'exigence de Dieu. Est-ce que c'est clair? Retenez en hébreu pour les hébraïsants, chez Ifriz Beminotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Mida ou Frézette. Vertu exagérée. Nous verrons par la suite qu'Abraham est dans son droit d'être l'homme d'une vertu exagérée. Chez lui, c'est de la vertu absolument. Mais le raisonnement du Maharal est le suivant. Et lorsque dans sa descendance apparaîtra ce défaut de la vertu exagérée, cela décèlera un manque de foi qui doit être corrigé par l'exil. Il va nous expliquer très en détail pourquoi le fait d'avoir mobilisé des étudiants, c'est punissable par l'exil. Il y a deux autres enseignements, mais pour le moment, j'indique uniquement cela. Une minute, je voudrais ajouter un problème. Pourquoi j'ajoute tout de suite une petite parenthèse? C'est que c'est un problème contemporain en Israël. Vous savez très bien qu'il y a des tendances du judaïsme religieux qui disent que les élèves des yeshivot n'ont pas à faire la guerre. C'est clair, n'ont pas à être mobilisés. Et je pense que certains d'entre eux, peut-être sont dans ce cas, ils sont mobilisés dans leur étude de la Torah au nom de la nation tout entière. Mais l'explication que je donnerai, si elle n'est pas suffisante, on la reprendra plus en détail demain, mais le temps avance, c'est la suivante. Il y a des guerres où le Talmud lui-même légifère en disant, il y a des guerres où tout le monde doit être mobilisé, même le fiancé et la fiancée sous la roupa. On les prend, on leur donne une arbalète. À l'époque, il n'y avait pas de fusil. Okay. Mais il y a peut-être des guerres où il suffit que ce ne soit pas des tzadikim qui la fassent. Et des guerres où il n'y a pas besoin de tant de mérite pour la gagner. L'erreur d'Abraham, va nous dire Rabbi Abbaou, c'était de croire qu'il n'avait pas de mérite suffisant et qu'il fallait, pour se protéger, mobiliser les plus grands des Talmidei Chachamim. Alors là, c'est l'indice d'un manque de foi. Où est l'originalité de l'enseignement du Maharal ici, qui à mon sens est colossal? C'est pas qu'il manquait de foi en Dieu, il manquait de foi en lui. C'est la raison pour laquelle il va être éprouvé par l'exil. Et le Maharal l'explique de cette manière. On a décelé à la racine de notre identité une certaine tendance, qui est la tendance de notre identité. Et vous savez très bien à quel point les Juifs ont cette hérédité-là, si j'ose dire. c'est leur identité, la tendance à l'exagération des vertus. Et la tendance à l'exagération des vertus est très néfaste, c'est pourquoi elle est punie. Je parlerai de ça très abondamment à travers le Maharal, mais pour le moment, je veux simplement vous énumérer les trois enseignements.
Est-ce que ça ne se produit pas nécessairement quand on se sent soit le premier, soit différent des autres ?
Peut-être, c'est avec d'autres facteurs, mais je vais essayer d'imager ça. Dieu dit à Abraham, sache que je te protège. Et Abraham répond, tu es sûr ? Moi je ne suis pas, j'ai besoin de me protéger. Alors cette exagération de la foi cache un manque de foi en soi. C'est une, à la limite, je ne veux pas parler d'Abraham une minute, mais de ce qui se passe chez les petits juifs. Quand je dis les petits juifs, ça veut dire les grands juifs. Par exemple, avant de partir en Israël, je suis allé prendre congé d'un des grands maîtres que j'ai eu à Paris. Et il me dit, mais tu es fou. Et pourquoi ? Il me dit, ici en France, il suffit d'un peu de mérite pour être méritant. Mais là-bas en Israël, il faudrait un beaucoup plus grand mérite pour être méritant. Moi j'ai peur, et toi tu vas. Je me suis dit, Ribbono shel Olam, ces juifs sont trop pieux. Ça veut dire, depuis 2000 ans, le bon Dieu nous dit, reviens chez moi, cette fois c'est chez moi. Et qu'est-ce qu'on lui répond ? Je ne sais pas si je mérite. Vous avez compris le scandale. Voilà, c'est ça le fond du problème. Il y a dans cette espèce d'exagération de la vertu une faille que le Maharal va diagnostiquer de façon très profonde. Je veux dire, c'est précisément le premier des hommes de la foi qui dévoile qu'il a une tendance à exagérer les exigences de Dieu du niveau du mérite et ça cache un manque de foi. Alors on va t'obliger à faire la preuve de la foi. Quoi ? L'exil. Comment ça fonctionne ? On va le voir en détail. Mais très rapidement par rapport à notre problème. Minute. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Dieu nous a dit une chose qui reste encore mystérieuse depuis les patriarches. Cette terre que l'humanité entière réclame, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un fait, c'est à vous. Et les juifs se disent, peut-être que ce n'est pas tellement à nous. Alors l'exil. L'exil, ça veut dire, vous allez savoir que vous êtes chez vous, nulle part, jusqu'au moment où vous le saurez.
Saurez que vous êtes chez vous, chez vous.
C'est ça qu'il faut arriver à expérimenter. C'est l'explication du Maharal. Il dit, ah, tu doutes que ce que je te promets te concerne, eh bien je vais t'apprendre que ça te concerne. Savoir, tu sauras que ta descendance sera dans un pays qui n'est pas le leur, jusqu'au moment où ils sauront où est le pays qui est le leur. Vous avez compris, le raisonnement est finalement très simple. En quoi l'exil va sanctionner comme catharsis le manque de foi. Ça, c'est le premier enseignement. Ensuite, vous aurez la parole, mais je voudrais vous les citer les trois. Le deuxième enseignement, c'est Shmuel qui enseigne « Mipene sheifriz al minotav shel HaKadosh Baruch Hu shenema bamaeda » C'était le verset 8 du chapitre 15 qu'on a vu hier, notez la référence. Lorsque Dieu dira « Cette terre t'appartient », alors Dieu, Abraham demande un signe, en quoi je saurai que j'en hériterai vraiment. Vous vous rappelez ? Et vous savez que les Juifs sont le seul peuple au monde qui sont prêts à renoncer à leur terre. Vous avez remarqué ? Surtout quand c'est la propre ennemie qui la leur réclame. Et regardez notre histoire, histoire de fou. On s'est cru chez nous, pas chez nous. Alors l'humanité entière nous dit que nous ne sommes pas chez nous, chez nous. Ça y est. Bon, ça c'est la deuxième enseignement, Shmuel. Troisième enseignement, peut-être plus difficile encore. Rabbi Yochanan Amar, Sheifriz al Minotav shel HaKadosh Baruch Hu, qu'il a exagéré les exigences de Dieu, Milavo Gerim Tahat Kanfe Ashrina, et n'a pas fait suffisamment de convertis. Alors que c'est lui le premier qui a commencé à faire des convertis. Et ça, nous allons l'étudier en détail avec le Maharal. Le raisonnement est le suivant. Il a cru que Dieu avait de trop grandes exigences pour les convertis. Il n'en a pas fait beaucoup. C'est clair ? Comprenez bien cela. Alors attention, des exigences, il y en a. Le Maharal ici ne dit pas que le tribunal rabbinique de Paris a trop d'exigences. Il dit tout à fait autre chose. Il dit qu'Abraham, lui, avait trop d'exigences. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors nous reprendrons donc ces trois enseignements. Le premier, c'est que il a pas cru, il a cru qu'il n'avait pas assez de mérite. Il a fait faire la guerre à des étudiants de la Torah. Le deuxième, c'est que il n'était pas du tout sûr que sa descendance avait droit à la terre qui lui a été promise. Le troisième, c'est qu'il n'a pas fait suffisamment de convertis. Nous verrons qu'il y a les trois dimensions de l'identité Israël. Un jour, j'ai imagé ça par une image de la manière suivante. C'est que les... Imaginez Abraham priant Dieu depuis 2000 ans. Comment il prie Dieu sur ce problème? Disant, mon Dieu, accomplis la promesse que tu m'as faite et donne cette terre à ma descendance. Et Dieu répond, à quelle descendance? Les Juifs qui habitent Chicago ou les Arabes qui habitent Hébron? Et Abraham se tait. Vous avez compris? Alors, on va reprendre toutes ces questions en détail à partir de demain, mais je voulais au moins vous traduire le début et vous aurez la parole. Alors, je vais reprendre ça dans l'ordre. Prenez le texte avec moi depuis le début du paragraphe. Alors, je lis simultanément en hébreu et en français. Je vais peut-être vous demander de me faire envoyer un verre d'eau. De me faire envoyer un verre d'eau. Donc, après avoir critiqué les deux premières propositions d'explication que nous avions eues par Nachmanide et par Abravanel, le Maharal nous cite un enseignement du traité de Nedarim qui se trouve à la page Lamed Bet Aleph, c'est-à-dire 32a. Dans cet enseignement, vous allez prendre à partir de la quatrième ligne du paragraphe. Nous avons d'abord ce que dit Rabbi Abba. Rabbi Abba enseigne « Mipenema ne'enash Abraham Avinu ». Pour quelle raison Abraham aurait-il été puni? Et ses descendants, ses fils, ont été asservis pendant 210 ans. Donc la question commune aux trois enseignements, mais qui est d'abord formulée par rapport au premier enseignement, celui de Rabbi Abba. Petite parenthèse concernant le nombre de 210 ans qui est donné comme définissant la durée de l'exil d'Égypte. Je crois que nous en avons parlé à une autre occasion. En fait, vous avez trois nombres dans le récit biblique. D'abord, 400 ans. C'est le chiffre qui est donné dans la prophétie à Abraham. Savoir que tu sauras que ta descendance sera étrangère. Alpar Merotchana pendant 400 ans. C'est le premier nombre que vous avez. Ensuite, vous avez un premier récit. Dans l'Exode, au moment de la sortie d'Égypte, qui nous donne le chiffre de 430 ans. Vous vérifierez vous-même, sinon je vous donnerai la référence, où le texte nous dit que les tribus d'Israël sont restées en Égypte 430 ans. Et donc la différence entre ces deux premiers nombres, 400 et 430, et ensuite le récit nous dit que le peuple des enfants d'Israël est sorti d'Égypte au bout de 210 ans. Alors je vais vous donner brièvement les explications nécessaires. Depuis la descente de la famille de Jacob qui rejoint Joseph jusqu'à la sortie d'Égypte avec Moïse, il se passe 210 ans. Depuis la naissance d'Abraham, c'est-à-dire depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Or, la prophétie concernant l'exil d'Égypte concernait précisément la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham concernée par cette prophétie commence avec Isaac. Et nous verrons tout à l'heure, assez rapidement, que les patriarches ont pris sur eux de vivre la situation de l'exil dès leur naissance. Et cela commence, pour cette prophétie, avec Isaac. De telle sorte d'économiser le temps d'exil pour leur descendance. Je reviendrai sur ce point en vous donnant les références nécessaires. Donc, premier nombre, premier chiffre, depuis la descente de Jacob jusqu'à la sortie d'Égypte, 210 ans. Depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, 400 ans. depuis le moment où la prophétie a été dite à Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, 430 ans. Voilà, si vous voulez, les données du problème. C'est la raison pour laquelle, dans les textes qui s'interrogent sur la raison du temps effectif de l'exil, vous avez le chiffre de 210 ans. Ça va jusque-là. Alors, le thème qui est apparu là est important, c'est que les patriarches, ayant compris l'éventualité de l'exil pour leur descendance, ont pris sur eux le plus possible de temps d'expérience de l'exil. La raison est très simple, c'est qu'ils pouvaient, à la rigueur, être à la limite sûrs de leur propre résistance. Ils ne pouvaient pas savoir quel serait le degré de résistance de leur descendance. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et pour quelle raison? Réfléchissez, pardon, je bois un peu d'eau. Pour quelle raison ils ne pouvaient pas savoir pour leur descendance? Ben, c'est très simple. Leur descendance, ce sont leurs propres enfants. Mais il y a un facteur qui leur était inconnu. Lequel? Amer. Et nous verrons d'ailleurs, je ne sais pas si on aura l'occasion déjà ce matin, que l'identité d'Israël peut se définir dans deux formules. Soit le peuple d'Israël, c'est toujours dit au masculin, les enfants d'Israël au masculin, Bnei Israël. Ça c'est la filiation par les pères et par les patriarches. Soit l'assemblée d'Israël, Knesset d'Israël au féminin. Ça c'est la filiation par les mères. Et les deux facteurs sont importants. Mais étant donné que les problèmes d'identité dont nous allons parler sont au niveau des patriarches eux-mêmes, à la rigueur, ils peuvent prendre sur eux l'éventualité de la mise à l'épreuve, mais un facteur inconnu pour leur descendance, c'est quel sera leur degré de résistance à l'identité de l'exil. Pour le dire d'une façon différente, les individus qui forment le peuple peuvent subsister à l'échelle individuelle, même dans l'exil. L'assemblée d'Israël en tant que telle ne peut pas subsister dans l'exil. Donc il y a un autre élément d'identité qui serait en question. Alors je reviens en tout cas à notre lecture. Rabbi Abahu pose donc la question de la manière commune aux trois enseignements. Et d'emblée, par un terme qui indique l'hypothèse de la punition d'une faute. Et il donne comme première réponse. Vous citez sur le texte. Mi bene sherasa angaria betalmide chachamim. Le premier enseignement, c'est parce qu'il avait mobilisé, envoyé à la guerre ses disciples. Là, nous avons eu une explication assez brève, je pense qu'elle suffit, sinon on peut la reprendre. C'est une sorte de doute quant au mérite qu'il avait déjà acquis, qu'il aurait protégé dans cette guerre qu'il devait faire pour sauver Lot. Il y a des guerres auxquelles on a non seulement le droit, mais l'obligation de mobiliser le mérite des justes. Il y a d'autres guerres où cela n'est pas nécessaire. Et le raisonnement d'Abraham était que peut-être il n'avait pas de mérite suffisant. Par conséquent, il aurait risqué de perdre cette guerre s'il ne l'avait faite qu'avec des simples soldats, comme j'ai dit hier. Et donc, ce sont ses propres élèves qu'il a mobilisés, plus exactement, dont il a mobilisé le mérite pour pouvoir être assuré de gagner cette guerre. L'enjeu de cette guerre était très important, quoique c'est dit vraiment, entre parenthèses, dans le récit. Il s'agit de sauver l'avenir messianique du monde par Lot, se trouvant en réserve d'histoire à Sodome et Gomorre, vous vous rappelez de ça. Et donc le Talmud ici, sans faire grief à Abraham de n'avoir pas osé supposer qu'il avait un mérite suffisant pour ne pas avoir à utiliser des hommes voués à l'étude de la Torah, les utiliser pour cette guerre. En quoi il y aurait là l'indice d'un manque de foi, si je dis. Deuxième enseignement. Je pense vous avoir donné la référence du verset. M. C'est quelle référence? Du chapitre. Très bien. Non, c'est pas celui-là. Verset 14 du chapitre 14. Ceux qui ont les textes, vous pouvez suivre le texte hébreu. Vayarek et Hamichav, il est débêté. Et il arma ses disciples, membres de sa maison. C'est le verset 14 du chapitre 14. Deuxième enseignement, c'est l'enseignement de Shmuel. Où Shmuel Amar, Mipene, chez Ifriz, Almidotav, chez la Kadosh Baruch Hu. Et Shmuel enseigne parce qu'il avait exagéré les exigences de mérite du côté de Dieu, d'après le verset qui dit « En quoi saurais-je que j'hériterai de cette terre ?» Et là, c'est le verset 8 du chapitre 15. Et Rabbi Yochanan enseigne « J'ai eu frise à l'minotage chez la Kadosh-Bohru. Il a exagéré les exigences de mérite de la part de Dieu. Milavo, il faudrait dire en hébreu « Mileavi », mais l'hébreu tel qu'il a été édité au temps du Maharal, avait d'autres formes. Milabo Gerim Tahat Kanfeashrina, de faire entrer des convertis littéralement sous les ailes de la Shrina. D'après un verset dont je ne vous ai pas encore la référence, mais je vous la donne maintenant, c'est le verset. Le verset 21 du chapitre 14. Alors, je vais vous traduire ce verset. Lorsque la guerre a été gagnée par le camp où se trouvait le roi de Sodome, et c'est le camp au secours duquel Abraham était allé, il y avait un butin et des prisonniers. Le roi de Sodome dit dans ce verset à Abraham, Tenli est un éphèche, donne-moi les personnes. Varechouche Karlach, et le butin, prends-le pour toi. Et Abraham répond, même le butin, je ne veux pas le prendre. Vous avez bien compris le verset. Et Rabbi Yochanan utilise ce verset pour dire, par là on apprend que, littéralement, Abraham a été trop paresseux à faire des convertis. Puisque le roi de Sodome lui propose des personnes humaines qui étaient l'enjeu de cette guerre. Et Abraham, non pas lui propose, lui demande de garder les personnes humaines. Abraham le laisse faire. Je reprends le verset. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Tenli hanefesh, varechouj karlach, donne-moi les personnes, et le butin garde-le. » Abraham va répondre, « Même le butin, je ne le veux pas. » Rappelez-vous du contexte. Et donc, le Talmud va mettre en évidence qu'il y a là une information importante du récit, qu'Abraham avait une occasion d'intégrer dans sa communauté ces personnes qui avaient été faites prisonnières dans la guerre par le roi de Sodome, il les a laissées à Sodome. Et non seulement ça, ces valeurs dont beaucoup plus tard on aura besoin pour construire le temple, il ne les prend pas quand même. Donc il y a de nouveau une attitude d'exagération de la vertu qui fait que dès l'origine de l'histoire, il y a quelque chose de non accompli. Là où sera ce rechouche, là où ira, là où iront ces personnes, là où ira ce butin, il faudra qu'Israël y aille pour les sauver. Voilà, très grosso modo, quel est le thème qu'il y a là, parce que c'est clair. Je vais reprendre peut-être d'une autre manière de la formule que je viens de dire tout à l'heure. Tout se passe comme si il y a quelque chose d'inachevé, d'inaccompli, dès le commencement de l'histoire d'Israël, dans le rassemblement des valeurs de sainteté. Une partie de la sainteté que l'on pouvait déjà mettre à l'abri a été laissée en dehors. L'histoire fera, l'histoire dira où ces valeurs finiront par se trouver. Au moment où la prophétie est dite à Abraham, on ne sait pas qu'il s'agit de l'Égypte. Très tôt dans le récit, on va s'apercevoir que ce n'est pas par hasard que Abraham, à peine rescapé de la civilisation d'Ur-Kasdim, commence à voyager du côté de l'Égypte. Déjà, il nous est indiqué que la civilisation en gestation passait par l'Égypte. Alors, en fin de compte, la prophétie qui disait dans un pays qui n'est pas le leur pour la descendance d'Abraham se particularisera en Égypte. Je voudrais simplement que vous reteniez un mot en hébreu, le mot de rechouch, qui est employé dans le verset. J'avais un tableau, je vous l'aurais écrit, mais je vous l'appelle resh, kaf, vav, shin, rechouch. Ce mot de rechouch, nous allons le trouver dans le verset du chapitre 15, qui est le verset concernant l'éventualité de l'exil, et que je vous rappelle, yadoar, tedar, savoir, tu sauras. Que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur. Eretz lo lahem. Nous avons déjà étudié ce verset plusieurs fois depuis lundi matin. Et le texte aurait pu dire que ta descendance sera en exil en Égypte, puisque finalement c'est là-bas que ça va se passer. Mais a priori, c'est pas évident. Tout simplement, il s'agit d'abord, a priori, de l'éventualité de l'exil comme tel. Et la formule de définition est donc formelle. Un pays qui n'est pas le pays de la promesse. Eretz lo lahem, un pays qui n'est pas à eux. Par la suite, il va se dévoiler qu'il s'agit de l'Égypte. Pourquoi? Parce que ce rechouch, ces valeurs, on traduit butin dans les allusions françaises. On finit par se trouver quelque part en Égypte, là où la civilisation était en gestation. Et c'est pourquoi notre verset concernant l'éventualité de l'exil finit par dire « Et après cela, ils sortiront avec un rechouch grand, le même mot est employé, avec de grandes valeurs. » Donc le Talmud ici, dans ce troisième enseignement, fait un lien entre la cause et l'effet, si j'ose dire. Abraham a laissé des valeurs en dehors. Là où ces valeurs se trouvent, il faudra aller les chercher. Et c'est pourquoi le verset de la prophétie de l'exil va jusque-là. Ils ne pourront sortir qu'en emmenant avec eux ces valeurs qu'Abraham avait laissées de côté, en dehors. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon. Le Midrash va nous montrer que on peut comprendre cela à tous les niveaux. J'espère l'avoir suffisamment indiqué, jusqu'au niveau des personnes elles-mêmes. Mais le Midrash va d'abord l'indiquer au niveau le plus fondamental. C'est-à-dire, c'est ici que ça se passe, pas là-bas. Ces matériaux qui ont été nécessaires pour la construction du tabernacle dans le désert. Et vous rappelez, récit dans l'Exode, on nous rappelle qu'avant de quitter l'Égypte, les Hébreux ont reçu des valeurs de toutes sortes que les Égyptiens leur ont données et ils les ont emportées avec eux. Vous rappelez de cela? Si vous voulez, je peux vous donner la référence. Alors on pourra donc récapituler le système d'explication de cette manière. Il y a dans les détails de ce récit l'indice d'une faille de l'identité dès l'origine. D'une certaine manière, quelque chose d'inachevé nous accompagne depuis le début de cette histoire. Ça commence dans l'histoire d'Abraham. Et c'est là qu'il faudra trouver, nous dit le Maharal, la raison pour laquelle